Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, Les délires de la sublimation. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. De tous qui se demandent ce qui se passe, il a conduit au service. Il prend le plateau de verre qu'il met sur la table et lui donne une gifle. Il faut que tu arrêtes tes caprices de jeune fille.
C'est pas un caprice de jeune fille. Vous m'avez demandé de trouver du travail, eh bien j'ai eu l'idée. C'est.
Je tenais à vous remercier. Je suis désolée de ne pas.
C'est ce que vous pouvez.
C'est déjà, c'est dommage.
Ben, vous pouvez bien me prendre pour bonne, à la place d'une des vôtres, autant que vous fassiez travailler votre famille.
Au revoir.
Petite idiote! Je t'ai pas dit de chercher un emploi, mais une occupation. Une jeune fille comme il faut n'a pas à travailler. On le trouve un mari. Elle doit s'occuper de sa famille. C'est bon pour les femmes de pauvres de travailler. Alors arrête de faire l'idiote. Tiens-toi. Trouve-toi une occupation. Va au patronage de la paroisse. Occupe-toi des pauvres. Rentre dans une chorale. Mais c'est pas moi. Mais ne reste pas à la maison sans rien faire. De toute façon... Tu as un âge de te marier. Faudra que tu penses à préparer ton trousseau avec ta mère. Je crois avoir un jeune homme pas mal pour toi. 35 ans, bonne situation, famille lyonnaise. Elle soupire et lui dit, mon Dieu, je vois déjà la chose. Mon mari, non, merci. J'aimerais mieux mourir vieille fille.
Mais que vois-tu donc? Tu ne le connais même pas.
Sa famille et lui doivent tenir un magasin d'objets de piété à Fourvière.
Mais non, tu n'y es pas du tout. Qu'est-ce qui t'a mis cette idée dans la tête?
Rien.
Il l'embrasse sur le front et lui dit, quelle idiote tu es. Mais une jolie idiote. Nous parlerons de tout ça plus tard. Et... que décides-tu de faire?
Jouer la comédie?
Certainement pas. Et puis tu joues très mal. La preuve, on t'a tout de suite remarqué en soubrette. Choisis la chorale. Comme ça, tu monteras sur la scène.
Bien, bon, d'accord pour la chorale. Et le trousseau. Mais le marié?
Je veux voir.
Le père l'embrasse et la quitte. Apolline décide d'aller dans sa chambre. Charles-André voit que Jules est très entouré, car il a une certaine notoriété par ses livres de nouvelles pleines de finesse très féminines. Une jeune fille, blonde, très douce dans les 20 ans, habillée d'une robe toute simple blanche, lui dit : pourquoi Jules ? Est-ce que nous sommes jamais...
Nous sortons jamais le soir. Parce que Nelly, j'ai beaucoup à faire.
Dommage que vous arriviez.
Je n'ai même pas une heure de temps en temps à me consacrer.
Mais j'en suis tout à fait.
C'est très difficile, vous savez.
Et
soupire et lui dit.
J'en suis navrée. Viens t'asseoir près de moi.
Est-ce que vous ne m'aimez pas? Je vous ai déjà dit, Nelly, que je vous aime bien, mais c'est difficile de parler de tout ça entouré de ce monde. Vous ne trouvez pas? Elle lui dit. Allons dans le parc, alors. Ça ne servirait pas à grand-chose. Je vous en conjure, venez. J'ai envie d'être seule avec vous. Elle lui prend la main. Il la serre. Il sort de la maison. Une fois dans le parc, elle le guide dans un endroit au pied d'un arbre où se trouve un banc. Ils s'assoivent. On entend le bruit de la musique. Elle a gardé la main dans sa sienne et met sa tête sur sa poitrine. Cela ennuie Jules, mais que faire?
Bien, je tenais à vous remercier. Je suis désolée de ne pas.
Je vous aime, Jules. Il lui dit. Je vous remercie, Nelly. Mais il ne faut pas. Je ne peux vous répondre à votre amour.
C'est vrai, c'est tout à fait mon avis.
Pourquoi? Vous ne trouvez pas assez belle?
Au revoir.
Il a pitié d'elle et lui dit. Ça vient de moi. Je suis incapable de rendre heureux une personne. Je suis dans mes rêves. Quelquefois, je ne sais plus ce que je suis capable d'aimer. Les sentiments se troublent. J'ai honte de ce que je ressens. Et lui dit.
Où vas-tu?
Vous n'avez pas à avoir honte d'aimer. Ça dépend de ce que l'on ressent. Et puis je suis incapable d'être heureux avec une personne.
Amusez-vous bien.
Mais moi je vous rendrai heureux. Il lui dit. C'est moi qui suis incapable de rendre heureux. Elle lui demande. Pourquoi? Parce que mon âme est trouble. Et elle lui dit. Vous posez de questions. Aimez-moi et c'est tout. Nos parents ne diraient pas non. Il n'y a que vous.
Il
voit passer un couple, un jeune homme et une jeune femme. Il lui dit, non, n'insistez pas, n'insistez pas. Il se dégage et se lève.
Voulez-vous dire au comte Gano que je
lui dit, je crois qu'il vaudrait mieux que l'on arrête ce genre de discussion. Autant pour vous que pour moi. Venez, rentrons. Elle se lève, triste et ne comprend pas. Il l'amène jusqu'au salon et lui dit « Je vais me retirer. Cette soirée a assez duré pour moi. » Bonsoir, mademoiselle. Elle a les larmes aux yeux et lui dit « Bonsoir, monsieur. » Et il s'éloigne. Les jours passent. Apolline, pour être tranquille, chante dans une chorale, mais elle s'ennuie ferme. Un soir qu'elle est allongée sur le lit de Jules et que Jules est à son bureau, elle lui dit « À la première occasion, je m'enfuis et je t'emmène avec moi. » Il lui dit « Tu sais très bien que je ne partirai pas et que tu prendras mon frère pour te servir de chaperon. » Elle hausse les épaules et lui dit « J'en ai pas besoin, j'ai pas besoin de chaperon, mais je m'ennuie, je veux vivre. Si au moins... tu pouvais m'aimer comme avant. » Il lui dit, « Avant, c'était avant. Maintenant, j'ai changé. Quelque chose est trouble en moi. » Elle lui dit, « C'est parce que tu travailles trop. Tu écris constamment. » Il lui dit, « Je suis bien obligé. J'ai mes cours à faire Et puis je dois écrire des nouvelles. Les lecteurs attendent. Malheureusement, je trouve de moins en moins d'idées. J'ai de plus en plus de difficultés à écrire. Elle lui dit, « Pouf, tu sais, les lecteurs ne demandent pas tant que ça. Regarde certains romans, ce sont que des babillages de mondains. » Il lui dit, « Peut-être, mais j'ai besoin d'écrire avec un vrai sujet. » Elle lui demande, « Tu me feras lire ce que tu as écrit ?» Il hausse les épaules, lui dit, « Si tu veux, mais je ne suis pas sûr que ça vaille la peine. » Apolline voit peu son autre frère. Une certaine réserve s'est mise entre les deux lorsqu'ils ont franchi l'entrée de la maison. Elle est prise, hypnotisée par la beauté de Jules. Le temps passe. Le roman de Charles André a été publié et en vitrine dans les librairies du centre. Comme son auteur a un nom connu, le livre se vend bien et il se lit. Et là, les gens sont surpris, outrés, la colère leur monte au nez, leur livre leur échappe des mains. Mais très vite, on le reprend, car l'on aime, malgré tout, les sensations fortes. On se sent gêné d'être vu en train de lire. Et comme un livre, c'est comme un livre pornographique. Ces dames vont le lire le feu aux joues en cachette dans leur boudoir. Et si une amie leur demande ce qu'elles en pensent, si elles l'ont lu et si elles doivent lire, elles disent toutes qu'elles ne l'ont pas lu. Serait très honte de dire qu'elles l'avaient lu. Si elles ont acheté le livre pour leur fille, car elles pensaient que c'était écrit par une personne du monde et que l'histoire se passait à Fourvière, elles pourraient le mettre entre toutes les mains. Et là, dès qu'elles ont vu ce que c'était, elles ont tout été reprendre le livre sans oser demander à la jeune fille s'ils avaient commencé à lire. Pour les hommes, ce n'est pas la même chose. Eux osent en parler et crient fort au scandale. C'est l'œuvre d'un franc-maçon, d'un communard. Quelle honte! Montrer notre chère ville à ses habitants comme ça. Le monde catholique est bafoué. La morale aussi. Tuer de sang-froid ses parents et se faire putain. Quelle honte! C'est l'œuvre la plus immorale qui soit. Ces cris de colère deviennent de plus en plus fréquents dans les salons. Ces messieurs en parlent. On ne salue plus la famille. Et on ne les invite plus. Le clergé entend ces bruits. Le primat des Gaules veut lire ce livre qui est si irreligieux, immoral et bafoue la famille. C'est un grand homme sec à cheveux blancs. Il se fait acheter le livre à un de ses secrétaires et le lit. Comme il est assez friand de choses fortes, il le lit avec plaisir. Il se dit même un certain passage bien écrit. Mais une fois que sa lecture était finie, il est redevenu primat des Gaules et se sent outré par cette chose immorale. La municipalité aussi l'a lu et la préfecture, mais ils ont bien ri aux dépens des curés. Le primat, qui connaît bien monsieur Constant Bonlandin, décide de le faire venir à son bureau. Il lui a envoyé une lettre d'invitation disant que c'était pour une affaire très importante. Constant soupire, va au rendez-vous.
« Tu dois être
pour une collecte quelconque. Un secrétaire en soutane le mène au bureau du primat des Gaules. Ça sent la rose et l'encens. Le secrétaire va frapper à la porte.
Entrez. Il ouvre la porte et dit : Monsieur Constantin Bananda. Entrez, monsieur Bananda. Je vous en prie. Il entre. Le secrétaire ferme la porte.
Le bureau est une vaste pièce avec des meubles en bois massif, un grand deux fauteuils, des chaises tapissées, une bibliothèque. Sur le mur, qui a été passé à la chaux, un grand crucifix en bois juste au-dessus du bureau. Le primat a sur sa table de son bureau le livre de Charles-André. Il dit : Venez vous asseoir, monsieur Constantin.
Constantin va s'asseoir sur un fauteuil en face du primat.
Le primat demande : Comment allez-vous, vous et votre famille ? Très bien, je vous remercie, monseigneur. Je vous ai fait venir, mon ami, c'est pour une affaire fort délicate. Vous savez sans nul doute que tout Lyon est en émoi au sujet d'une affaire fort désagréable. Non, je ne le sais pas, je travaille beaucoup ces derniers temps et je n'ai pas le temps de m'intéresser à ce qui trouble notre belle cité. Le primat soupire et lui dit : Je suis malheureusement... Je vais malheureusement vous le dire. C'est à cause d'un membre de votre famille. Votre fils, Charles-André, a écrit et fait éditer un roman, enfin, si on peut appeler cela comme ça, qui trouble beaucoup les esprits et émeut plus d'un. Ce qu'il a écrit est d'une immoralité et souille la religion, la famille et notre belle ville. Il faut absolument que ce scandale s'arrête. Le père surpris lui dit, je ne comprends pas, et je vous prie de croire que je ne savais pas. Mon Dieu, comment mon fils a-t-il pu faire une chose pareille ? Le primat lui demande, vous n'avez vraiment pas lu son livre ? Non, je vous le jure. Faudra le lire, mais ne le faites lire à personne, et brûlez-le. Je vous le promets, mon éminence, je vous ai fait venir, c'est pour qu'il arrête ce scandale. Tout d'abord, je vais faire dire dans les églises, au moment du serment, qu'il est interdit de lire ce livre. Et vous allez dire à votre fils d'en arrêter la publication. Car malheureusement, ce livre impie se lit beaucoup. Et l'on en est, je crois, à 3e réédition. L'éditeur se frotte les mains. Je lui ai promis que s'il arrêtait de faire imprimer ce roman, il aurait l'exclusivité des biographies de Bernadette Soubirou. Il m'a rionné en me disant que ça le mènerait à la ruine. Alors je suis obligé de prendre des mesures très sévères. Si votre fils et l'éditeur n'arrêtent plus pas l'édition du dit livre, je porterai l'affaire au Saint-Siège. Et vous savez que dans ces circonstances, le livre est mis à l'index et l'auteur excommunié avec l'éditeur. Mon Dieu, mon éminence, pensez à notre famille. Nous allons être bannis. C'est justement ce que je fais. Allez maintenant, faites votre devoir de chrétien. Le père se lève, s'incline et dit : Je suis au service de son éminence et de l'Église qui le représente. Allez, mon fils.
Thank you.
Il entre chez lui furieux avec un exemplaire du livre de son fils qu'il a acheté dans une librairie. S'enferme dans son bureau pour le lire en attendant le retour du fils. Lit le livre. Sa colère disparaît au fur et à mesure qu'il le lit. Toute l'histoire bien faite, même puissante. La description du milieu très réelle. Risuka en se disant que les bigots ont dû se reconnaître et que ça ne leur a pas plu qu'on leur montre dans quelle médiocrité ils vivent. Pour ce qui est du crime des parents, pour la vie qu'ils menaient, ça n'en aurait pas été une si grande perte de la perte, et pour la société non plus. Et lorsque la fille fait le tapin après sa désillusion, c'est dans l'ordre des choses. Elle est gentille, cette petite. Et puis, il faut bien des putes, sinon Paris ne serait plus Paris. Et le non-remords de la fille à la fin, elle n'a rien fait. Elle n'a rien à se faire pardonner. C'est la faute des curés. Donc, une fois qu'il a fini le livre, il le trouve très bon. Il le trouve tellement bon qu'il en a oublié l'auteur et le pourquoi il le lit. En regardant sur la couverture le nom de l'auteur, il se souvient de tout. Mon fils est un sacré écrivain. Il soupire et se dit encore, à cause de ces sacrés curés, je vais obligé de lui demander de détruire son œuvre. Je ne peux pas faire autrement. Les curés sont propriétaires d'une grande partie des terrains de la ville. Je ne pourrai plus faire construire d'immeubles ou d'en acheter. Je ruine la carrière de mon fils. Je lui demanderai, pour qu'il se fasse pardonner, d'écrire un livre sur un saint et de le dédier à son éminence. Je vais me renseigner si ce livre peut être édité dans un pays d'Amérique sous un faux nom. De toute façon, je ne vais pas brûler cet exemplaire. Je vais le cacher dans ma bibliothèque. Il est allé mettre le livre dans la bibliothèque. Il ne doit pas tarder à venir. Je vais l'attendre au salon. Il va au salon. Là, il retrouve sa femme assise qui brode près de la fenêtre. Il va s'asseoir près d'elle. Elle lui dit, il paraît que notre fils a écrit un roman dont tout Lyon parle. L'avez-vous lu ?
Oui.
Vous me le prêtez, votre exemplaire. Je ne l'ai pas lu. Et il est à lire. Il paraît qu'il y a des choses tout à fait remarquables. Qu'en pensez-vous ?
Il y a des choses, oui, mais malheureusement, il nous met dans l'embarras. J'étais convoqué par son éminence le primat de Gaulle. Il est furieux. Il veut que notre fils détruise ce livre, c'est-à-dire qu'il donne l'ordre de ne plus faire éditer. Elle ose les épaules et lui dit
« De quoi il se mêle, celui-là ?»
On a entendu la sonnerie de la porte. Des pas.
Constantin se lève et dit « Ce doit être notre fils !»
Et il sort du salon. Il trouve dans le couloir son fils.
« J'ai te parlé. Viens avec moi dans le bureau. »
Ils y vont.
et s'asseoir.
Voilà, j'ai été convoqué par son éminence. Et il lui dit tout ce que lui a dit le primat des Gaules. Je te demande donc, c'est de faire ce qu'on te demande de faire. Et si je refuse, tu nous mets à la ruine. Personne ne voudra faire affaire avec un homme qui a un fils excommunié. Et les terrains appartiennent presque tous au curé. Le père soupire et continue. J'ai lu ton livre, il m'a plu. Il est même plus que très bien. Écoute, tu fais ce que dit de faire ces corbeaux. Mais moi, je vais me renseigner si nous ne pouvons pas faire éditer ton livre à l'étranger. Merci, père. Je demanderai encore une chose. C'est pour te faire pardonner, c'est d'écrire la vie d'un saint et de le dédicacer au primat. Charles-André fait la grimace. Je ne suis pas très fort dans ce genre de choses, mais je trouverai bien un saint. Et pour les emmerder, je retrouverai un saint qui n'a jamais existé, comme saint Christophe. Fais comme tu veux, mon petit. Et pour ton livre, je ne peux que dire à mon éditeur de l'arrêter. Fais-le. Bien. C'est ce que fait le libraire et les libraires ont reçu l'ordre d'enlever de leur vitrine ce livre immoral. Le préfet et le maire sont satisfaits que la chose se soit terminée sans qu'il y ait eu injure. Ils en remercient le primat des Gaules, grand diplomate. Le livre continue bien entendu à se lire car il peut se prêter. Mais personne n'en parle, surtout pas à la famille. Tout est entré dans l'ordre. Le père est allé voir des consuls et ambassadeurs de différents pays d'Amérique, mais là-bas ils sont encore plus puritains qu'en France. Charles-André s'est fait une raison. Et puis un jour, un éditeur helvétique suisse est venu le voir pour lui proposer de lui éditer son livre. Parce qu'il pense être vendu sous le manteau en France et ailleurs, sous un autre nom d'auteur et de titre d'ouvrage. Charles-André a accepté. Il a reçu une grosse somme et en recevra à chaque nouvelle réédition. On dit que le livre édité comme ça, derrière la banque, en librairie, se vend très bien, mais chut! La morale est sauve, la famille et ses affaires aussi. Charles-André continue à travailler chez le libraire. Il est estimé surtout depuis l'apparition de son roman. Le soir, il travaille à biographie de Saint-Vincent en lui mettant beaucoup de couleurs du temps. Cette œuvre qu'on lui a demandée, il a choisi le saint un peu au hasard. Un matin, en allant à son travail, il croise une de ses sœurs et ça lui a donné le déclic. Donc cette œuvre, qui était une corvée, est devenue un plaisir. Il est allé aux bibliothèques se renseigner, chez les sœurs Saint-Vincent, chez les prêtres. Il a fait une recherche approfondie du temps, des mœurs, de la politique. Une fois qu'il a eu tout fait, il s'est mis à écrire. Et au fur et à mesure qu'il a écrit l'époque, le saint a vécu, s'est mis à vivre lui aussi. Il a tellement fait revivre qu'il lui semble, à certains moments, d'être Saint-Vincent. Ses luttes, sa passion, ses peines, ses joies, son époque sont devenues lui. C'était lui à lui. Malgré lui, il se passionne pour ce travail et chaque jour il a hâte d'être au soir pour écrire. On peut dire que c'est qu'un miracle s'est accompli. D'une corvée, c'est devenu un plaisir suprême. Vous me direz, à part ce travail d'écriture, que fait Charles-André ? Pas grand-chose. Et on peut même dire rien. Mais, et son besoin amoureux, physique ? Il y a une période où il s'en passe facilement. Bien entendu, de temps en temps, cela le démange. Alors, d'une main habile, dans les toilettes, en 5 minutes, c'est fait. Et l'opium ? Eh oui, et l'opium ? Eh bien, son corps, aidé par le cerveau occupé, une bonne nourriture, n'en a plus besoin pour le moment. Bien sûr, s'il sentait son odeur. Et Apolline, la pauvre Apolline, elle aime Jules, qui, lui, ne fait pas attention à elle. Fait pas attention à elle comme elle le voudrait. Elle peut pas s'empêcher d'aller tous les jours dans sa chambre, le caresser, lui donner des baisers. Non. Par contre, elle sent que Jules ne ressent rien, ou pas assez, de ce qu'elle aimerait qu'il ressente pour elle. Elle va 3 fois par semaine à la chorale apprendre ses chansons chez elle. Et dans sa chambre, elle dessine. Elle dessine des visages, surtout celui de Jules. En fait, elle s'ennuie. Elle s'ennuie à en mourir. Elle aimerait partir. Ah, si elle avait de l'argent. Elle tenterait la chose en Angleterre. L'opium lui manque énormément, mais elle ne peut pas en avoir à cause du manque d'argent. Et où le faire ? Alors, de temps en temps, surtout le soir, elle imbibe un coton d'éther ou, si elle n'a seulement pas d'éther, d'alcool à brûler. Pour ne pas infecter la chambre, elle ouvre la fenêtre et en prend juste ce qu'il faut. Et Jules, oui, et Jules. Eh bien, lui, il est bien sage, suit ses cours, écrit, vit en solitaire. Pourtant, bien des étudiants aimeraient faire sa connaissance, car il est très estimé par ses écrits délicats et qui, malgré tout, parle de choses dures et troubles. Mais Jules veut rester seul, car il se sent mal dans sa peau. Il a l'impression qu'il couvre quelque chose de monstrueux et qu'il ne veut pas le savoir ou le réveiller. Malheureusement, la nuit, il a des rêves qui lui prouvent que la bête est bien en lui, car son esprit sans défense ne peut l'empêcher qu'elle sorte. Malgré lui, c'est de cette bête que son œuvre se nourrit de plus en plus. Mais pour le moment, il peut la cacher d'artifice, car il ne veut pas que l'on sache ce qu'il cache derrière ce visage lumineux et beau. La mère, elle, est tellement occupée en affaires de la maison, à sa famille, à ses relations, soirées, etc., qu'elle n'a pas le temps de penser à elle. Ou plutôt, elle ne peut penser à elle que du point de vue extérieur, à cause de la représentation qu'elle doit se donner et qui fait partie de ses obligations. Heureusement, car elle verrait que sa vie n'est qu'une vie superficielle, qu'elle n'a jamais vraiment pensé à elle, faire quelque chose vraiment pour elle, que le temps a passé bien vite à ne rien faire de vraiment vrai. Elle pourrait se demander si elle a été aimée. Elle pourrait penser à la vieillesse, elle pourrait penser à la mort, mais heureusement pour elle, elle n'a pas le temps de penser à tout ça. Donc, elle ne peut penser et savoir qu'elle est malheureuse. De pouvoir se dire malheureuse de ce qu'elle est devenue, de s'être mariée à cet homme froid, d'avoir des enfants égoïstes, d'avoir gâché sa vie, et que la mort s'approche. Et Constant, lui. Eh bien, Constant, lui, il fait des affaires. Il n'a que ça dans sa vie. Sa femme, il l'aime bien, mais il ne la voit plus. C'est devenu un accessoire de luxe. La représentation du bien-être de sa vie privée et la représentante publique de sa famille. Quant à ses enfants, il a été déçu par eux. Il s'attendait à ce qu'ils soient plus sérieux. Qu'au moins, il pense à prendre la succession. Que ses fils écrivent, ça ne le gêne pas, mais ce n'est pas une chose qui fait entrer l'argent. Quant à sa fille, une espèce de suffragette qui en plus rêve de faire du théâtre, cela la désole. Heureusement qu'elle est jolie, peut-être que mariée, elle deviendra plus sage. Constantin n'a pas de vrais amis, ni de vraies connaissances. C'est difficile, lorsqu'on a des affaires, de se faire des amis. Mais cela ne le peine pas, car il n'a pas le caractère à vouloir s'épancher sur les épaules d'un ami. Sa vie, il ne l'a pas choisie. Elle s'est faite de lui-même. De l'argent reçu de son père, il a eu le bon choix pour le placer, et la sagesse, car il aurait pu le dépenser en fraudaine. Mais il avait le respect de l'argent, car il avait vu son père suer pour en gagner, suer à la ferme, suivant le caprice du temps, qui vous rendait plus riche ou plus misérable. C'est en voyant cela qu'il a toujours voulu placer son argent dans des placements sûrs. Et qu'est-ce qui est le plus sûr que l'immobilier? Donc sa vie s'est faite d'elle-même. Autour de sa vie professionnelle. Et pas un instant, il a regretté sa façon de vivre. Du point de vue sentimental, il a toujours été solitaire et aime la solitude. Avec sa famille, c'est comme s'il était seul, car ils font partie de lui. Sexuellement, la chose ne l'a pas vraiment intéressé. Très vite, après quelques fredaines de jeunesse, il s'est aperçu que les femmes étaient toutes pareilles, qu'on était toujours déçu par elles, car on croit toujours trouver quelque chose de différent, elles se ressemblent toutes. Et quant à l'acte lui-même, il a toujours trouvé que c'était ridicule. Le temps passe. Un après-midi, qu'il est à son bureau, l'on frappe à la porte.
Entrez.
C'est le domestique. « Monsieur, il y a une dame qui désire un entretien avec vous. »«
Qui est cette dame ?»«
Madame Denise Sommet. »«
Qu'est-ce qu'elle veut ?»«
Je ne sais pas, monsieur. Elle m'a dit que c'était confidentiel. » Constant soupire et dit
« Faites-la entrer !»
Demi-seconde après, on frappe à la porte.
Entrez.
Le domestique a fait entrer Denise, en manteau rouge, chapeau marine, maquillée à outrance. Constant se demande ce que cette pute vient faire chez lui.
« Vous avez demandé à me voir ? Entrez, madame, et asseyez-vous. »
Je vous écoute. Voilà, monsieur, c'est très délicat. J'ai fait la connaissance de votre fils à Monte-Carlo, lorsqu'il séjournait. Et nous avons sympathisé. C'est moi qui, d'ailleurs, lui ai trouvé du travail. Nous étendons bien, donc, de fil en aiguille, nous avons eu un penchant l'un pour l'autre. Il m'a dit qu'il m'aimait. J'ai accepté son amour. Lui et puis présenter mes enfants et ils ont sympathisé ensemble, surtout mon aîné. Ils étaient très bien ensemble. Nous sommes fiancés devant tout le monde, ma famille et tout quoi, personne que nous connaissions. Nous étions comme mariés et je dois avouer que tout était prêt. Un soir, un moment d'égarement, vous comprenez. Donc voilà. Et une fois que tout était prêt, il m'a dit qu'il partait en France et me laissait, ne me voulait plus. J'étais déshonoré. Il s'était affiché avec moi et ma famille et maintenant. Alors j'ai été voir un avocat, il m'a dit que je pourrais demander des dommages et intérêts. Constant lui laisse parler, il est furieux et lui dit
« Qu'est-ce qui me dit que la personne qui vous a séduite est mon fils ?»«
Mais monsieur, j'avais son nom et l'adresse de ses parents. »«
Quelle preuve avez-vous qu'il vous a séduite et demandé en mariage ?»«
Des témoins, mes enfants, directeur de l'école où nous exercions, et aussi des lettres passionnées qu'il m'écrivait. » Elle fouille dans son sac et lui montre un paquet de lettres.
« Regardez !»
Il prend une lettre. Et l'ouvre pour voir si c'est bien l'écriture de son fils. Il voit en gros que c'est une lettre intime, mais ne cherche pas à savoir ce qu'elle dit. C'est bien l'écriture de son fils. Prenez, madame. Elle remet la lettre dans son sac.
Que voulez-vous exactement ?
C'est-à-dire que je suis une femme honorable. Je l'aime, voyez-vous, votre fils. J'aimerais que les choses se passent le mieux possible. En m'épousant, comme il me l'a promis, le père lui dit.
Ce que vous me dites là, madame, est tout à fait respectable, mais c'est un peu délicat. Vous voulez entrer dans une famille qui ne vous connaît pas. Et puis, est-ce que mon fils veut encore se marier ? Avec vous.
Elle lui répond, pour ce qui est de ma respectabilité et de ceux des miens, vous pouvez faire une enquête.
Vous avez des biens?
Non, pas vraiment.
Combien d'enfants?
2.
Quel âge?
D'un âge où on commence à se débrouiller seul. Le père surpris.
Veuve?
Oui.
Je doute pas de votre franchise, mais... il me semble qu'il y a une telle différence d'âge avec mon fils.
Elle lui dit, à peine 7 ans. Le père est surpris, il croyait 25. Il lui dit,
bon, ma foi, je ne peux rien faire pour vous, à part en parler à mon fils. Et s'il refuse?
Elle lui dit, je demanderai des dommages et intérêts et peut-être le forcer à se marier avec moi.
Il m'a compromise. J'ai des témoins.
Bien, bien, bien. Je crois... mais vous n'êtes pas de nationalité française.
Oui, mais je le suis par mon père. Donc je peux recourir à la justice de ce pays, le père dit.
Comme la chose est bien faite. Vous avez autre chose à me dire?
Non, monsieur, à part que vous devez me donner rendez-vous pour la réponse.
Je le ferai, vous ferai savoir. Vous êtes dans quel hôtel?
Le Savoie.
Bien, j'en parlerai à mon fils.
Il se lève, elle aussi, et lui dit
« Au revoir, madame. »
Il est furieux.
Dans quel pied il s'est mis, cet imbécile? Elle va nous faire enchanter. Et nous risquons d'avoir un procès. Avec l'affaire du livre, ça va faire un bel effet.
Dès que son fils est revenu de son travail, il a mené à son bureau et lui a dit la visite de Denise. Charles-André est furieux et lui dit « C'est elle qui est allée dire au directeur de l'établissement que nous étions fiancés, sans me prévenir. Elle était toujours tournée autour de moi.
« Mais tu as fait la connaissance de sa famille. »
« Oui, un guet-apens. Je ne voulais pas. »
« Alors que comptes-tu faire maintenant ?»«
Je ne veux pas l'épouser. J'en ai jamais eu l'intention. »«
Et tes lettres ?»
Là aussi, c'était un engrenage. Je ne veux pas me marier avec une femme qui a 25 ans plus que moi et des enfants qui ont mon âge. » Le père rajoute.
« Il n'a pas de fortune. Que pouvons-nous faire ? Si tu refuses, il va y avoir procès, scandale, frais, dommage et intérêt. » Et avec le livre que tu as écrit, ils vont tous penser que tu es un immoral. Dis-toi bien qu'ils vont tous être du côté de la salope. Ils vont être heureux de te faire mettre en bas de la société pour démontrer aux autres en leur disant « Voyez quel genre de personne s'attaque aux familles et à la religion. »
Le fils demande « Que faire ? »
Il n'y a que deux solutions. Ou tu te maries, où tu payes avec le déshonneur et tu entraînes avec toi la famille.
Jean-André lui dit, nous sommes perdus. Elle nous fait chanter pour entrer dans notre famille, pour avoir une vie tranquille. Nous allons être obligés de faire vivre elle et ses deux enfants. Ah,
si elle pouvait mourir, quelle cargne, vieille toupie.
Le père soupire.
Malheureusement, ce genre de femme... C'est coriace. Ça vivra centenaire.
Elle le joue.
Hôtel Le Savoie.
Elle a de l'argent.
Elle va en avoir. Et ça prend à vivre luxueusement.
Le fils se lève pour faire les 100 pas. Je vais tâcher de lui faire entendre raison.
Et que lui diras-tu?
Je vais lui faire comprendre que ce que notre mariage a de ridicule. Et lui dire que je n'ai pas de situation majeure. Et que ma famille me déshérite si je me marie avec elle, qu'elle me répudiera et qu'elle ne sera pas reçue chez vous, et que nous aurons une vie misérable, et que je dis cela, c'est pour son bien. Le père lui demande.
Et toi, tu crois que ça va suffire? Elle va te parler du procès, dommage et intérêt.
Je dirais que je ne pourrai rien lui donner, puisque je n'ai rien. Et qu'en tant que personne majeure, ma famille n'a rien à y voir. Que si elle ne me croit pas, elle n'a qu'à faire une enquête. Le père lui dit,
je souhaite pour toi que la fille, que la famille n'a rien à payer. Aucun frais de procès ou de dommage intérêt.
Charles-André s'arrête de marcher et lui dit. Il lui dit, ce qu'il faut, c'est qu'elle me croit.
Bien, tente le coup, et pas de scandale, qu'elle reparte sans que personne ne le sache.
Charles André, le lendemain, en fin de matinée, va à l'hôtel Le Savoie. C'est un grand hôtel luxueux. Il demande au concierge. J'aimerais parler à madame Sommet de Mise.
Quel nom dois-je annoncer, monsieur ?
Charles-André Beaumandin. Il lui donne sa carte. Le concierge appelle un groom. Et lui dit, allez à la chambre 601. Il dit à cette dame que ce monsieur désire la voir. Il donne la carte au groom. Après quelques minutes, le groom revient vers Charles-André et lui dit « Veuillez me suivre, monsieur. » Charles-André le suit. Ils vont au troisième étage, suivent le couloir et le groom va frapper à la chambre 601.
Entrez.
Le groom fait rentrer Charles-André.
La pièce est vaste, un grand lit à deux places, table de nuit de chaque côté du lit, une armoire, une table de salon, une coiffeuse, deux chaises, un canapé. Elle est au milieu de la pièce, pas coiffée, en robe de chambre verte. Il la regarde avec dégoût. Elle s'approche de lui.
« Bonjour, Charles-André, je suis heureuse de te revoir. »
Elle se pend à son cou pour l'embrasser. Il se dégage et la rejette d'un geste plus loin et lui demande « Qu'est-ce que tu es venu faire ici ?»«
Je suis venu te rappeler ta promesse. »«
Quelle promesse ? Je t'ai rien promis. »«
Et notre mariage ?»«
C'est toi qui as dit à tous que nous allions nous marier. »« Mais moi, j'ai jamais rien dit. »
Elle lui dit « Tu m'as dit que tu m'aimais. »«
Tu m'as forcé à le dire. » Il s'approche d'elle et lui dit, je suis venu te dire de déguerpir, de foutre le camp, de disparaître de ma vie. J'en ai assez de toi. Je ne veux plus te revoir.
De quel droit tu me parles de ce comme ça, de cette façon? Je suis dans mon droit, moi. J'ai un avocat qui peut te forcer à me donner des dommages-intérêts et même à nous marier.
Comme tu me l'as promis. Il le regarde avec dédain et lui dit, tu as tout manigancé. Tirez ta toile. Tu savais que ma famille avait des biens. Vieille truie.
Tu t'imagines que tu vas pouvoir jouer les dames.
Mais regarde-toi. Regarde-toi, ma pauvre fille. Regarde-toi.
Il la prend par le bras et la pousse devant l'armoire à glace.
Tu vois comme tu es. Tu vois l'air ridicule que tu as au milieu de ce décor. C'est pas n'importe qui peut avoir de la classe, du maintien, de l'élégance, du goût. Même avec tout l'argent du monde, tu ne saurais même pas t'habiller. Tu n'as aucun goût.
Il lui serre plus fortement le bras en la secouant.
Tu nous vois tous les deux, dis, tous les deux. On nous verrait, on dirait la maquerelle et son gigolo.
Avant de vouloir être une dame, il faut apprendre les manières, savoir s'habiller, se tenir à table.
Sais-tu éplucher une orange avec ton couteau?
Il est en sueur, en nage.
Il souffle un moment. Elle lui dit, allez ma vieille, tu vas repartir et me laisser tranquille.
D'un geste brusque, elle se dégage et lui dit,
certainement pas. Ça te va bien de me dénigrer et de jouer les grands seigneurs. C'était facile pour toi. Monsieur est né où il fallait, dans la dentelle. Et comme il n'a pas eu à travailler à l'âge de 9 ans, il a pu apprendre les manières. Mais moi, je me suis fait toute seule. Toute seule. Et ça n'a pas été facile. J'ai trimé. J'ai appris la vie. Pour moi-même. Et malgré que je travaillais, j'ai étudié et réussi à passer mes diplômes. Et je me suis marié avec un homme estimable, vieux mais estimable. Et maintenant que je peux avoir une vie tranquille,
Tu me la refuses? Hein? Tu me la refuses? Non! Puisque je suis dans mes droits, je reste et je demande réparation. Ne t'en fais pas. Si nous nous marions, je te laisserai tranquille. Tu me manques que j'ai de quoi jusqu'à la fin de mes jours. Il lui crie, « Tu n'as pas honte de me demander de t'épouser alors que tes enfants ont le même âge que moi ?» Elle lui crie, « C'est faux !» Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la sublimation, dont c'était la 24e partie. Production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.